Et le thème de l'Église cette année. Pardon? Tout le monde ne connaît pas le thème de l'Église encore. Quel est le thème de l'Église cette année? Ah, merci Luc. Vivre l'Évangile. C'est bon cela. D'accord. Alors justement, ce matin, on va voir vivre l'Évangile, se consacrer au Seigneur pour le servir. Vivre l'Évangile, se consacrer au Seigneur pour le servir. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants de ta présence parmi nous. Et c'est par pure grâce qu'on peut se tenir devant toi. Purifié par le sang de Jésus-Christ, gardé en Christ, lavé en Christ et fondé en Christ. Merci Seigneur. Père, que ce message t'honore, te glorifie, qu'il puisse nous aider à aller de l'avant et à nous consacrer pour te servir. Au nom de Jésus. Amen. En fait, à la fin du culte, on y reviendra. Là-dessus, nous aurons un moment fort pour notre Église, puisque chaque année, en début d'année scolaire, universitaire, on a ce qu'on appelle le forum des ministères avec tous les ministères qui sont présentés derrière les tables avec les personnes en charge. Et ainsi, vous pouvez aller voir, discuter avec eux, vous dire, oh, moi, je suis intéressé par tel ministère, discuter avec les responsables et ainsi vous engager dans le Seigneur. Quand j'ai choisi le passage de ce matin, vous allez peut-être être surpris, j'ai lu à cœur cette semaine, je n'ai pas fait une relation avec le forum des ministères. Puis après, je me suis dit, mais c'est vrai au fait. Ça tombe bien, il me semble, comme sujet par rapport au défi de s'engager dans le ministère et ainsi de glorifier le Seigneur. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite à lire avec moi, et peut-être ce sera un rappel pour certains, parce que c'est un passage très connu, mais voilà, c'est, je crois, le Seigneur qui m'a mis à cœur ce matin de prendre ce passage, Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. J'étais dans le train hier, puisque je suis arrivé de Genève après un comité de l'IBG, et c'était très réjouissant de voir que l'IBG est en train même de penser à ouvrir un pôle pour la mission, la formation pour des futurs missionnaires, et dans le train, j'avais le temps de méditer, etc. Et je vous partage un petit peu ce matin ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et à partir du verset 3 et les suivants jusqu'au verset 8, il est question du service du Seigneur par les dons qu'il nous a donnés, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. En Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors les versets 3 à 8 sont la suite du verset 1 et 2. Je veux dire, c'est logique, oui, c'est la continuité. Mais au départ, il y a un appel à la consécration. Et cet appel est logique parce que l'apôtre Paul, dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, après avoir expliqué l'universalité du péché et donc la perdition de l'homme, explique la grâce, le salut en Jésus-Christ comme un don gratuit, la justification par la foi. Ensuite, dans les chapitres 6, 7, 8, il est question de sanctification. Dans les chapitres 9, 10, 11, il est question du plan de Dieu pour Israël. Et puis, à partir du chapitre 12, c'est la transition entre le côté théorique, si vous voulez bien, les 11 premiers chapitres, qui révèlent le salut de Dieu au travers des siècles, et maintenant, le côté pratique. Et la logique de l'apôtre Paul, c'est qu'en échange de la compréhension de ce plan de salut extraordinaire en Jésus-Christ, donné par Dieu, qui a donné son Fils, nous nous donnions à lui. Un jour, j'étais dans ma chambre étudiant quelque part à Casse, dans le Tarn, pour rien vous cacher. Et un jour, Dieu m'a dit, voilà ce que j'ai fait à la croix pour toi. Et j'ai eu comme la vision spirituelle, je m'entends, de Jésus en train de mourir à la croix, en train de souffrir. Ses clous dans ses mains, dans ses pieds, cette couronne d'épines. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi ? En échange de l'amour de Jésus à la croix, en échange du salut parfait de Dieu le Père qui a fait de nous ses enfants, certes adoptés, mais graciés, pardonnés, justifiés, sanctifiés, Satan maintenant a une logique de quelque chose qui est très raisonnable pour nous, c'est de nous donner à lui. Alors est-il logique de se consacrer à Dieu ? La réponse est oui. Maintenant, comment se consacrer à Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Eh bien, l'apôtre Paul commence, « Je vous exhorte, frères ». Ça ne veut pas dire que les sœurs sont exclues. Évidemment, c'est un terme général. Ça veut dire que quiconque a reçu Jésus-Christ est né de nouveau. Paul dit, « Je vous exhorte ». Comme nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu, c'est Dieu qui nous exhorte. Et nous pourrions dire, oh, peut-être ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais ce matin, n'échappons pas au message de Christ, inspiré de Dieu au travers de Paul, qui nous dit, je vous exhorte. Alors le mot exhorter, dans le grec, l'original, ça a trois sens. Ça a le sens d'instruire, souvent employé dans le Nouveau Testament. Ça a le sens de réprimander, là ce n'est pas le cas, mais ça peut être l'idée d'une réprimande ouverte. Et la Bible dit, une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. L'exhortation, dans ce cas-là, est constructive pour aider et exhorter les frères et sœurs à rester dans le chemin du Seigneur. Mais là, c'est encourager. Paul dit, je vous encourage. Mais c'est comme si il a, après avoir eu cette révélation du plan de Dieu, c'est comme s'il pense que son exhortation va toucher les fibres les plus intimes que Jésus lui-même a touchées dans nos cœurs, ses compassions, à cause de sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, et que parce que touché par la grâce de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, touché par la grâce de Dieu, en échange de l'amour de Dieu manifesté à la croix, nous allons nous donner. Vous connaissez le verset où Dieu dit au travers de Salomon dans les Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et c'est peut-être la chose la plus difficile que Dieu a vis-à-vis de nous, ses enfants, pourtant qui nous a rachetés. Comme des enfants, parfois, vis-à-vis de nos parents, nous avons été désobéissants, nous n'avons pas toujours été comme il fallait. Ben, envers Dieu, le Père, parfois, nous, pourtant, devenus adultes dans le Seigneur, nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce qu'il nous demande et à la réponse obéissante, pourtant clairement exprimé de ses commandements. Dans le mot ici, je vous exhorte, fait appel à toute la compassion que déjà le croyant a déjà ressentie par le salut en Jésus qu'il a pénétré par l'Esprit Saint, la nouvelle naissance. Alors comment se consacrer ? Eh bien, la Bible ici, Paul nous dit clairement ce que c'est. Il dit dans le passage ici, c'est offrir son corps. C'est au verset 12, ne pas se conformer au monde, et au verset 2, toujours, la deuxième partie, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, il est logique de se consacrer à Dieu, donc c'est irraisonnable de ne pas le faire, vous avez compris l'exhortation de Paul ce matin, et puis, nous pouvons le faire en offrant son corps, à ne pas nous conformer à ce monde et à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quel beau message de la part du Seigneur. Il y a parfois des petites conjonctions qui sont clés dans le vocabulaire de l'apôtre Paul, qui était un grand cartésien, entre guillemets, en tout cas une pensée très logique développée avec beaucoup de logique. Bon, excusez-moi si logisme, mais l'idée ici, c'est qu'il dit par exemple en Romains, pour vous donner un exemple, en Romains chapitre 5, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Une fois qu'on est sauvé, on apprend que Dieu nous a justifiés. Ce n'est pas qu'on est parfait, même si après on est appelé des justes et des saints, mais on est justifié par la grâce de Jésus-Christ. Toute notre culpabilité, tout notre péché, tout ce qui nous condamnait, Jésus l'a pris à la croix. Et maintenant, on est justifié, on est gracié. C'est comme si quelqu'un a payé un prix pour vous de toutes vos dettes, le péché, et on est justifié, gracié par la croix de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est très puissant cela, parce qu'il y a des gens, même aux Philippines, qui une fois par an se crucifient et veulent souffrir la mort de Jésus comme pour expier leur péché, comme couvrir leur faute. Mais il n'y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui a pu faire cela. Personne ne peut le faire d'autre. Justifié par grâce. Alors ça amène la paix du cœur. Et puis Paul continue en Romains chapitre 8, et après avoir parlé de la justification par la foi seule et non par les œuvres, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Une fois gracié, sauvé, une fois justifié, Dieu nous apprend à devenir saints. Il nous déclare saints et après il veut nous rendre saints. Ça s'appelle la sanctification. Et par son Esprit Saint en nous, par la lecture de la parole et son œuvre dans nos vies au travers de différents moyens, eh bien, il nous met à part pour lui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est bon de savoir que malgré qu'on est des imparfaits, sanctifiés partiellement jusqu'à ce que la sanctification totale soit notre lot, le moment de l'enlèvement de l'Église, on sera parfait dans la présence de Jésus-Christ, parce que complètement transformé, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc plus de condamnation. C'est merveilleux. On est justifié par la foi, on est sanctifié par la grâce de Jésus, et puis, j'allais dire, maintenant, on se consacre par la grâce. Ayant connu la grâce pour être justifié, la grâce d'être sanctifié, et parfois en reconnaissant que Dieu travaille dans nos vies et veut nous moduler, nous transformer à l'image de son Fils, eh bien, maintenant, par la grâce, nous nous consacrons. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait pour se consacrer. Si vous avez, parfois je me souviens, quelqu'un qui m'a dit, oh, moi je n'ai pas encore lu la Bible, donc je ne peux pas faire telle et telle chose dans l'Église, je n'ai pas lu toute la Bible. Alors je l'ai exhorté à lire toute la Bible le plus tôt possible, certes, mais je l'ai surtout exhorté à pouvoir servir le Seigneur, même s'il ne connaissait pas encore ou avait lu toute la Bible. Nous ne devons pas nous mettre des contraintes, n'est-ce pas, sous des lois, mais nous pouvons croire en la grâce suffisante de Jésus qui va nous rendre capables de servir. Mais tout démarre dans le cœur. Le service est une question de cœur. C'est une question de la mesure du don que l'on fait de soi-même à Dieu en retour du don qu'il nous a donné. Nous pouvons parfois dire, oui, mais il manque des serviteurs dans l'Église. On va recruter, on va exhorter à servir. Mais Dieu nous exhorte d'abord à nous donner à lui. Et parce que donner, alors nous sommes capables de le servir. Voyez-vous, des fois, on met la charrue, comme on dit, avant les bœufs. Donc, en fait, ce verset 1, je vous exhorte donc, étant donc justifié, il n'y a donc plus de condamnation, donc de condamnation. Maintenant, voilà, je vous exhorte donc, c'est une logique de l'apôtre Paul, afin qu'on puisse se consacrer à lui, parce que justifié. Qu'est-ce que ça veut dire offrir son corps comme un sacrifice vivant ? Agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Essayons de comprendre ce que c'est qu'un culte raisonnable, tout d'abord. Le culte, certainement, a à faire avec le culte d'adoration. Un cœur donné au Seigneur a des lèvres qui confessent son nom. à un esprit qui désire le louer, lui rendre grâce. Mais on peut l'étendre à tout ministère, tout diaconat, n'est-ce pas, qui est accompli pour Dieu. Autrement dit, chaque service que l'on fait pour le Seigneur est une façon de rendre à Dieu ce culte raisonnable. Je vous ai déjà donné cette anecdote, mais excusez-moi, elle me revient à l'esprit pour illustrer une vérité importante. Quand j'étais pasteur au Québec, on était en transition d'un bâtiment, j'étais dans une pièce, avec un grand bureau dans une école qu'on avait louée, et puis il y avait une dame qui venait nettoyer les ou ranger tous les jouets des enfants. On avait beaucoup d'enfants. Et il fallait vraiment un certain travail de rangement, d'organisation. Et puis j'ai entendu la dame, la porte était ouverte, rouspéter, murmurer, râler contre les enfants, contre les parents qui laissent leurs terribles enfants mettre du désordre. Et à un moment donné, ce n'était pas facile pour moi. Mais je suis allé voir la sœur, j'ai dit, écoutez ma sœur, c'est vrai qu'il y a un problème là, mais votre attitude n'est pas une attitude qui glorifie Dieu à l'instant. Soit vous le faites dans la joie du Seigneur, malgré les contraintes, certes, et vous avez le droit de dire que les enfants ne doivent plus ranger, n'est-ce pas? Oui. Les parents doivent apprendre leurs enfants à ranger, n'est-ce pas? Puis les parents doivent être rangés aussi, n'est-ce pas? OK. Et j'ai dit, écoutez, ma sœur, vous n'avez pas la joie du Seigneur. Oh, elle était saisie, alors que d'autres personnes à l'église balayaient, passaient la serpillière en chantant des cantiques. Quelle différence! En fait, tout service offert à Dieu, lorsqu'il est fait dans l'esprit, dans la paix et la joie du Seigneur, est un culte qui rend grâce à Dieu. On ne le fait pas pour l'Église, on ne le fait pas pour le pasteur ou l'autorité ou les autorités de l'Église, pour plaire aux hommes. On le fait pour plaire à Dieu. Et la récompense est liée à l'attitude intérieure. On ne donne pas à l'Église, on donne au Seigneur. On ne se donne pas à l'Église, on se donne au Seigneur. Et c'est vrai qu'après, on se donne à l'Église, parce que c'est le corps de Christ, on est un membre. Et quand un membre est vivant, alors il a une place dans le corps et chaque membre a une place et fonctionne et rend service aux autres. Il n'y a pas un membre de mon corps ici qui se balade quelque part et qui est indépendant de moi. Il n'y a pas une main qui vous tape sur l'épaule en ce moment pour vous dire ce message est pour toi. Non, non, ce n'est pas vrai. Hein. La main reste là parce qu'on est indissociable. Vous ne pouvez pas disséquer votre corps et le corps de Christ n'a pas à être disséqué. Chaque membre a une place, il y a une place pour chacun. Alors, se consacrer, c'est trouver sa place. Mais c'est une attitude intérieure qui fait que le culte est raisonnable parce que c'est un culte qui est lié à une motivation d'amour et de service à cause de Jésus. Sinon, abstenez-vous, ou plutôt, changez votre cœur pour servir le Seigneur de tout votre cœur. Et là, ça fait plaisir au Seigneur. Ici, c'est lié à la raison. C'est donc quelque part, je dirais, d'ailleurs un livre qu'on ne trouve plus, mais qu'on a beaucoup utilisé quand on était étudiant, la belle époque pour moi. Alors, c'était la logique de la foi. Je ne sais pas s'il existe encore ce livre, mais c'était merveilleux. Ceci dit, dans l'Ancien Testament, l'Israélite qui se sentait coupable offrait ce qu'on appelle une victime, un holocauste d'expiation, de culpabilité. Il y avait une façon avec laquelle le sacrificateur tuait l'animal et partageait l'animal, l'offrait à Dieu d'une certaine façon, prenait une partie pour lui. En fait, c'était l'expiation. Mais une fois que le croyant israélite avait en quelque part reçu le pardon de Dieu, l'expiation, le sang, expier veut dire couvrir, le sang, n'est-ce pas, qui préfigurait le sang de Jésus, couvrait son péché, il avait la joie. Et qu'est-ce qu'il offrait à ce moment-là? Un nouveau sacrifice, un sacrifice qu'on appelait le sacrifice de consécration. Et là, tenez-vous bien, tout le sacrifice devait être brûlé. Et ça fait penser, et c'est un peu dur ce que je vais dire là, dans un sens, que quand on se consacre, on veut se consacrer à Dieu, il semble parfois que Dieu va consumer notre vie. On va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on va aller là où on ne va pas, on ne voudrait pas aller. On va fréquenter des gens peut-être qu'on n'a pas envie de fréquenter, et ainsi de suite. Et Dieu va nous mettre sur leur chemin toutes sortes de défi pour que ce soit lui qui soit glorifié, pas nous, afin que toute la gloire lui revienne pour des bonnes œuvres préparées d'avance qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ce qu'on a décidé de nous-mêmes, mais qu'on laisse Dieu agir et tout d'un coup on est dans un engrenage presque, j'allais dire. Et c'est vrai que des fois dans l'Église, on est impliqué, tout d'un coup, c'est comme un engrenage, jusqu'à ce qu'on retrouve toute la paix de Dieu et la motivation. Ouais, mais Seigneur, quelque part c'est ton engrenage, c'est pas le mien. Alors fais-moi la grâce d'être à ma place, de rester équilibré dans mon ministère, mais c'est toi qui me pousses là. Une fois qu'on s'est engagé, c'est difficile. Les Romains, quand ils ont voulu envahir l'Angleterre, ils ont brûlé tous leurs bateaux, ils ne voulaient pas pour montrer, voilà, on va réussir. Alors, bon, c'est une faible illustration, mais ça veut dire que le sacrifice de consécration qu'offrait l'Israélite, il devait être brûlé entièrement. Et on a peur de se consumer. Vous ne croyez pas ? On a peur de se donner. Et une fois qu'on s'est donné, on a peur de se donner encore. Puis une fois qu'on s'est donné encore, on a peur de se donner encore plus. Puis une fois qu'on s'est donné encore plus, on a encore peur de se donner encore plus. Et vous avez compris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un prix à payer, le prix de la consécration. Mais bien sûr, il faut garder le cœur proche du Seigneur. Ça, c'est la vraie motivation. Mais parfois, certains trébuchent, se disqualifient, ne servent plus le Seigneur. Ils ne servent plus le Seigneur parce que dans le cœur, il n'y a plus ce feu qui, intense qui doit consumer, brûler la vie. On n'a qu'une vie à vivre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre ? Disait William Booth. Alors, Godet a dit dans son commentaire, « Ne pas donner notre tout au Seigneur qu'a donné son tout en Christ est une erreur de raisonnement. Il est logique de se consacrer, même si on a des craintes de se consacrer. Ne pas donner notre tout au Dieu qui a donné son tout en Christ est une erreur de raisonnement. » Et John MacArthur, dans un de ses commentaires, a dit « La clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. » Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'on pense, c'est vrai, quand on reçoit, on va être équipé pour mieux servir. Mais c'est en fait lorsqu'on donne tout que Dieu utilise le peu que l'on a, ce tout qui devient un rien et qui devient un tout pour la gloire du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas, vous avez été racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Excusez, j'ai rajouté le donc, il n'y est pas dans l'original. Glorifiez, oui il y est, excusez, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6:10. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus, j'ai été racheté au marché de l'esclavage du péché et parce que Dieu m'a racheté, alors je dois le glorifier. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Un jour, j'écoutais une prédication d'un cher frère qui parlait de la Genèse, de la création, que l'Esprit de Dieu était là, se mouvait et toute la puissance de Dieu. Et puis, il a fait une analogie avec ce même Esprit qui est venu habiter le corps du croyant, qui est devenu son temple. Nous ne réalisons pas toujours, parce qu'on est tellement limité, évidemment, dans un corps terrestre, limité dans notre intelligence et compréhension des choses spirituelles, limité dans nos émotions, limité dans notre volonté. On est limité en tout. Même en voiture, on doit faire attention. Hein ? On est limité partout, mais c'est ce Saint-Esprit qui nous habite. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette puissance qui a créé les cieux et la terre, c'est cette puissance qui veut que l'on garde tout son être saint. Et je pense à ce verset, 1 Corinthiens 6:19-18, puisque je vous les ai déjà lu le verset 19, qui dit ceci, 1 Corinthiens 6:18, « Fuyez la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Il n'y a pas que la débauche qui fait que quelqu'un pêche contre son corps en tant que croyant, ce corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit, et si la Bible dit, si vous détruisez le temple, Dieu vous détruira. Ça peut être la gloutonnerie, ça peut être la paresse, ça peut être la convoitise sexuelle, la fornication, l'adultère, tout cela, c'est faire partie d'une mauvaise utilisation du corps. En Hébreux, chapitre 10 et versets 5 à 9, on a l'exemple de notre Seigneur Jésus. Et c'est quelque chose qui est bouleversant. Si vraiment on comprend la profondeur de l'incarnation de Jésus, on est bouleversé par cette volonté soumise à Dieu le Père de consécration, de service. Il est écrit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Il n'y avait pas une solution parfaite pour sauver l'homme. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Soumission de la volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Jésus, à Gethsémani, a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et Jésus sur la terre a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu mon Père. Un culte raisonnable, c'est faire la volonté de Dieu le Père, soumis en dépendant de Dieu le Père, dans la joie du Seigneur, car le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie du Seigneur. La Bible dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Comme j'ai mentionné, ici Paul fait appel aux sentiments déjà existants dans le cœur du croyant, touché par Dieu. Il désire maintenant se donner à Christ et ainsi le laisser remplir de sa présence pour se donner, pour s'offrir en échange de la bonté de Dieu, de son amour, de sa longanimité, de sa patience, de sa grâce, de sa provision, etc. Donc il offre son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, offrir son corps? Alors c'est la façon avec laquelle Dieu veut que l'on se consacre à lui, dans un culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, offrir son corps? Alors ça fait appel à l'image de ce que faisait l'Israélite, parce qu'il est écrit comme un sacrifice vivant. L'Israélite ne devait pas amener un animal mort, mais il fallait qu'il soit tué, que le sang soit versé pour différentes raisons. En fait, offrir son corps comme des sacrifices vivants, c'est devenir une victime consacrée. Je ne dis pas être une victime dans le sens il est victime d'eux, mais une victime, un sacrifice volontaire où Dieu a l'autorité d'agir sur nous comme il l'entend. Je ne sais pas vous, suivant les tempéraments, on va dire, certains d'entre nous ont une forte volonté, d'autres moins. Mais on a tous quelque part une volonté. Et parfois ceux qui montrent, qui n'ont pas une forte volonté, ils cachent peut-être une très forte volonté. On est tous comme cela quelque part. Et parfois même, on peut devenir très têtu, n'est-ce pas? Et s'entêter de faire ce qu'on pense qui plaît à Dieu, sans que ça vienne de Dieu. Exactement. On doit vérifier que notre volonté, qui est une capacité que Dieu nous a donnée et que Dieu veut utiliser, soit soumise à sa volonté pour accomplir sa volonté. Donc une chose que je dois comprendre, c'est d'abord me soumettre et être prêt à obéir au Seigneur. Vous savez, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose de tellement prompt. L'obéissance immédiate, comme Abraham qui allait sacrifier son fils Isaac de suite à l'ordre de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est très vécu. On a toujours une petite tendance à la contestation, à la rébellion, moi d'abord. Écoutez d'abord ce que je vais dire et ce que je vais faire. Et avec Dieu, on agit un peu pareil. Mais c'est tellement plus beau, bien-aimé, pour ceux qui ont goûté cette paix du Seigneur, d'être soumis à sa volonté et d'être conscient d'accomplir la volonté de Dieu et d'y être dans cette volonté. C'est une grande paix. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des tempêtes et toutes sortes d'obstacles autour de nous. Mais quelque part, la paix de Dieu nous garde. Alors offrir son corps, c'est donc un terme technique, offrir comme une offrande sur l'autel. Et il y a un passage qui collabore cela, avec 1 Pierre, si vous tournez, allez, tournez avec moi un petit peu dans vos Bibles, 1 Pierre, chapitre 2, et verset 5. Il est écrit « Vous-même comme des pierres vivantes, après s'être approché de la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Afin d'offrir des victimes spirituelles. Alors, c'est peut-être des nouveaux-nés, c'est peut-être nous qui devons nous donner, comme Jésus s'est donné entièrement à la croix. Et je pense en Romains, chapitre 6 et versets 11 à 13. Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Alors, on pourrait dire beaucoup, je pense, sur le fait d'offrir, de s'offrir en tant que victime consacrée, mais un sacrifice vivant qui plaît à Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne le règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, mais comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, ce n'est pas simplement les membres du corps. Bien sûr, j'aime bien dire, voilà, me consacrer en tant que croyant, ça commence, c'est vrai, par mon corps, mais on peut un peu spiritualiser dans l'illustration suivante, ben, je donne mes mains au Seigneur. Ça veut dire que je désire faire ce qu'il veut que je fasse. Je donne mes pieds au Seigneur. Ça veut dire que je désire aller, marcher, là où le Seigneur veut que je sois et que je marche. Je peux dire, je donne mes yeux au Seigneur. Ça veut dire que je vais regarder ce que le Seigneur veut que je regarde. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Et pareil pour les oreilles. Je donne mes oreilles au Seigneur. Ça veut dire que je vais entendre que ce que le Seigneur veut que j'entende. Donc, ça veut dire que au travers de mes pieds, de mes mains, vous comprenez, des oreilles, mes yeux, je me consacre et quelque part je me sépare du monde pour ne pas voir ce que le monde m'offre, pour ne pas entendre ce que le monde m'offre, pour ne pas aller là où le monde m'attire, etc. Donc, je me consacre, mais bien sûr, ce n'est pas simplement le corps, dans cette illustration que j'ai donnée, c'est tout l'être entier, c'est corps, âme et esprit, donc c'est la volonté, c'est mes émotions, c'est mon intelligence, si petite soit-elle, je dois la donner au Seigneur, pour que lui en fasse ce qu'il veut, pour glorifier le Seigneur. Alors, offrir son corps, c'est être une victime consacrée, et j'ajouterai, c'est très important cela, une victime volontaire, parce que Dieu ne peut jamais imposer qu'on le serve. Ah, il peut nous pousser, il peut nous bousculer, n'est-ce pas? Il peut nous envoyer des ouvriers à la moisson, envoyer, le terme grec, c'est comme passer quelqu'un à travers la fenêtre, c'est vraiment un peu, il nous donne des, excusez, des coups de pied dans les fesses de temps en temps, parce qu'on ne bouge pas. Mais en même temps, il ne va pas plus loin, il est plein de grâce pour nous pousser au service, mais il demande toujours qu'on soit volontaire. Ça vient du cœur. En échange, Seigneur, de ce que tu as fait pour moi, oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends-la, prends ma vie, Seigneur. Alors, un sacrifice vivant, parce qu'on ne peut pas offrir quelque chose qui est mort. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas servir le Seigneur et offrir un culte raisonnable. Il faut que d'abord, il y ait la régénération. Vous voulez servir le Seigneur, assurez-vous d'abord que vous êtes régénéré par son esprit, parce que Dieu agrée un sacrifice vivant. En attendant, peut-être, priez Dieu alors que le Seigneur vous sauve, mais devenez des serviteurs vivants, saints, parce que rien de souillé quelque part ne peut être offert à Dieu. D'ailleurs, souvent, l'exigence de la loi demandait des sacrifices parfaits. Des sacrifices, ce n'était pas la petite brebis ou l'holocauste malade, n'est-ce pas? L'animal chétif, l'animal boiteux, l'animal infecté. Il fallait que l'animal offert devant Dieu, comme un sacrifice qui plaît à Dieu, soit un animal pur, un animal de bonne santé. Et nous devons ainsi offrir tout notre être, rien de souillé, et puis déclarer ce que dit Dieu comme péché, péché, et se laisser confesser, purifier par la confession, et retrouver la paix et la joie du Seigneur. et ensuite mettre sa vie donc dans les mains du Seigneur. Et il est écrit ici, en Romains chapitre 12, que ce culte de s'offrir, c'est un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est agréable au Seigneur. De même que l'Ancien Testament nous dit que le parfum des sacrifices est de bonne odeur à l'Éternel, alors c'est Dieu qui a déclaré ça. Parce que pour lui, il voyait dans les holocaustes la préfiguration de la mort de Jésus. Parce que l'odeur de la chair cuite ou brûlée, ce n'est pas particulièrement peut-être agréable. Mais devant Dieu, c'est agréable. Alors parfois, j'aimerais dire ceci, c'est qu'un tel s'offre au Seigneur. Ça peut ne paraître peut-être toujours agréable, mais Dieu sait. Veillons à ne pas juger le service des uns et des autres. Quelque part, si vous servez le Seigneur, c'est entre vous et le Seigneur. Et si vous êtes une agréable odeur devant Dieu, eh bien, allez-y. Vous avez la bénédiction de Dieu et faites ce que Dieu vous demande, parce que c'est merveilleux. Alors, il est logique de se consacrer à Dieu, et comment se consacrer ? Offrir son corps. Deuxièmement, je serai un peu plus bref pour la deuxième et troisième partie, ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, et c'est dans la voie passive, ne soyez pas conformés. Autrement dit, le monde, sans se rendre compte, peut commencer à nous conformer à ses principes et à ses fonctions, et à ses désirs, ses convoitises. Alors ne vous laissez pas conformer par le monde. Autrement dit, ne soyez pas une éponge qui absorbe tout ce qui est autour de vous. Ne soyez pas un thermomètre qui subit la température, mais soyez un thermostat, résistez pour donner la température ambiante que vous voulez donner. Je me souviens d'un frère bien-aimé, décédé depuis lors, un frère vraiment extraordinaire, qui travaillait dans une usine, qui était diacre à notre église, et qui un jour, dans son lieu où il mangeait tous les jours à midi, avec son pique-nique, parce que là-bas, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y en avait un collègue qui avait mis plein de photos pornographiques dans le lieu du snack où tous les gens, les ouvriers mangeaient. Ben, je peux vous dire que lui, il s'est levé, il a tout arraché. Et l'autre s'est énervé. Eh bien, écoute, tu veux te battre, il a dit. Enfin, non, ça, je ne pense pas qu'il voulait se battre. Mais il n'a pas lâché prise. Hein. En plus, il prenait son pique-nique en lisant la Bible. Et les gens le savaient. Il n'a pas lâché prise. Alors, je veux dire, bon, on n'est peut-être pas confrontés tous à des choses comme ça, mais dans le travail, face au mensonge, c'est incroyable le mensonge qui circule. Face à la malhonnêteté de paroles et d'actions, face à bien des choses, le chrétien doit être un thermostat. Il ne doit pas subir le monde pour plaire au monde, pour gagner le monde. C'est un grand piège du compromis. Mais il doit, au contraire, être en Christ. Solide dans ses baskets, droit dans ses chaussures, et ainsi marquer le monde par la présence de Christ, peu importe le prix à payer. Alors, la Bible mentionne quand même plusieurs fois cette séparation d'avec le monde. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? La première application pratique, c'est le mariage. Dieu appelle à ce que les enfants de Dieu se marient entre eux et qu'un enfant de Dieu épouse un enfant de Dieu. Une enfant de Dieu, on se comprend. Dans le sens que Dieu ne veut pas qu'on se marie avec quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur. Il y a toujours le piège, il va peut-être se convertir avec mon témoignage, mais... Soyez sages, parce que, et puis il y a tellement de gens qui goûtent, qui pensent que, et qui se brûlent, qui après leur vie est marquée parce qu'ils ont fait des fausses expériences avec le monde. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous vous rendez compte? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ça, c'était l'appel en Israël, alors qu'ils étaient déportés à Babylone, pour sortir de Babylone. Ils avaient été sous l'influence quelque part de Babylone. Maintenant, il était temps de quitter, notamment l'idolâtrie, de marquer le temps de séparation. Et le croyant, il est appelé à marquer ce temps de séparation pour ne pas faire de compromis dans sa vie. Qu'il soit seul à la maison, devant la télévision, la radio, les journaux, qu'il soit au travail, qu'il soit en déplacement, il ne doit pas faire de compromis avec le monde. D'ailleurs, Jacques, qu'on va commencer d'étudier en groupe de maison, peut-être vous avez déjà commencé, on en parlera dans un moment, Jacques 4, versets 3 et 4, il dit, il est très incisif, Jacques. Hein. Alors, si vous lisez Jacques, attendez-vous à être bousculé un petit peu. Hein. Et c'est bien d'être bousculé, on en a besoin. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oh là là, Jacques dit, vous priez, mais ce n'est pas la bonne motivation, c'est pour satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, vous savez, ce langage, il est fort. Adultère spirituel que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est imité contre Dieu, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand le monde et la chair se mélangent avec la vie que Dieu voudrait nous donner, ce n'est pas la vraie vie du Seigneur. On doit séparer ce qui vient du Seigneur, ce qui vient du monde, et se consacrer comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et puis, la Bible dit, vous le savez, n'aimons point le monde, hein, Jean chapitre 2, versets 15 à 17, ni les choses qui sont dans le monde. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et de la chair, parce que tout cela vient du monde, ne vient pas de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu. Et je pense à un passage qui est merveilleux, c'est Galates 6, 14. Et c'est Paul qui dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. » La raison pour laquelle Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », parce que tout simplement, il laisse Christ vivre en lui. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde peut nous offrir beaucoup de choses. Le monde aujourd'hui, on vit dans un tel monde matérialiste. On peut courir beaucoup après cela et perdre son temps et peut-être sa vie. Et la Bible dit, alors, une deuxième façon de se consacrer au Seigneur, c'est de se purifier vis-à-vis du monde, se mettre à part par rapport au monde, pour se mettre à part pour Dieu, et ainsi ne pas faire de compromis avec le monde, ne pas se compromettre et de se séparer du monde sans se sortir du monde, comme dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas ? Vous êtes dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Et ainsi, un troisième point, brièvement, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Le mot « transformé » dans l'original, c'est « métamorphosé ». On comprend ce que c'est que d'être métamorphosé, n'est-ce pas ? C'est très fort comme mot, mais soyez transformés, soyez réellement transformés, que ça se voit. C'est ça que Paul dit. Si vous êtes métamorphosé, quelqu'un qui est converti, ça se voit. Je me souviens en lisant le livre Le Réveil de Charles Finet. Il dit, à son époque, bon, c'est une illustration, il dit, il y avait un forgeron qui passait son temps à blasphémer Dieu. Et il était d'une dureté terrible dans le village. Tout le monde redoutait ce forgeron. Et il se convertit par la grâce de Dieu. Et il y a un petit villageois qui dit, « Oh, il est converti !» Même son cheval s'en est aperçu, parce qu'il tapait tellement sur son cheval, le pauvre. Alors, c'est une illustration qui date du siècle passé, mais est-ce que, allez, notre façon de conduire, notre vocabulaire, notre façon de donner, notre façon de répondre aux gens, est-ce que vraiment les gens nous voient comme des gens transformés ? Je dis, mais c'est incroyable, il a quelque chose que je n'ai pas, qu'est-ce qu'il a ? On est le sel, la terre, la lumière du monde. Renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est le centre de contrôle de nos attitudes, de nos pensées, de nos sentiments et les actes dont nous devons veiller à avoir une intelligence renouvelée. Parfois, on se fait piéger par l'ennemi. C'est incroyable comment l'ennemi nous tend des pièges, des tentations, des choses tout d'un coup que l'on pense ou qu'on commence à discuter et tout d'un coup, on se dit, mais non, mais c'est pas, j'ai pas besoin de discuter de ça ou le malin. Et la seule façon de renouveler son intelligence par rapport aux attaques de l'ennemi, c'est de réciter des versets. c'est de penser comme Christ pense. Voilà, je suis un enfant de Dieu, je suis purifié par grâce, je suis pardonné, je suis en route pour le ciel. Si l'ennemi veut nous décourager, oh, mais je suis un enfant de Dieu. Attends, si tu touches à moi, tu touches à la prunelle de Dieu. Et en plus, j'ai un ticket pour le ciel. C'est gratuit, je suis en route pour le ciel. Satan, arrière de moi. Va-t'en. Nous pouvons nous combattre avec intelligence. Ce n'est pas une question d'émotion, du sentimentalisme. C'est une foi intelligente. Ce n'est pas une foi mystique que nous voulons avoir. C'est une foi intelligente basée sur la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'on est métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence, eh bien que ça se voit, hein, que ça se voit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, parfois, il y a des gens qui discernent la volonté de Dieu pour nous. Vous avez déjà vécu ça? Il semble que les autres savent mieux que nous. Mais c'est vrai que des fois, les autres voient mieux que nous. Parce que la Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ah, parfois, la sagesse est d'un grand nombre de conseillers, puis la volonté de Dieu, parfois, passe par des avis des autres, des conseils, ou des circonstances, en tout cas, lecture de la parole, certainement, la direction de l'Esprit de Dieu, la paix de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est dans la mesure où mon intelligence, ce que j'ai dans l'esprit, qui est renouvelé par la parole de Dieu, que je vais discerner la volonté de Dieu. On se tracasse souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont très indécises par rapport à certaines choses, parce que tout simplement, il n'y a pas la maturité de l'intelligence spirituelle, de la parole de Dieu, d'un homme fait. Comprenez ce que je veux dire. Baigner dans les Écritures. Ah, on fait tous des erreurs. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des erreurs. Mais Dieu veut nous donner une intelligence spirituelle que nous n'avons pas de nous-mêmes. Ce n'est pas une question de QI. C'est une question de spiritualité, d'intelligence liée avec Dieu. Ça n'empêche pas que Dieu utilise le QI. Hein? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, c'est dans le grec ici, c'est ce qu'on contraire au malin. Et des fois, ça ne nous semble pas si bon que ça pour nous. Et pourtant, c'est bon parce que c'est contraire au malin. Et agréable, c'est pareil. Ça ne nous paraît pas si agréable que ça parfois. Bon, excusez-moi, je finis avec ça, je donne une petite anecdote. Mais je me souviens quand Dieu m'a appelé, j'étais sur ma table à dessin, étudiant en architecture, faisais des dessins, bon, mon diplôme. Mais, et Dieu m'a dit ceci, Michel, il y aura toujours des architectes. C'est vrai. Mais toi, veux-tu me servir pour l'éternité? Moi, j'avais mes petites ambitions. Hein. Je rêvais d'être un architecte, un bon architecte, pour dire modestement. Et donc, Dieu a contraint mes projets à devenir ses projets. Et un jour, j'ai dû céder. Et c'est dans cette chambre où je vous ai dit que j'ai vu Christ en train de mourir, et plaider pour que je le serve. Alors chacun, on a une spiritualité différente. Dieu a utilisé cela. J'ai compris qu'il fallait se donner. Mais c'était dur. Qu'est-ce que va dire la famille et mes ambitions et ma réalisation et retourner encore à l'école, étudier la théologie après 6 ans. J'avais bien des excuses. Mais quand Christ appelle à le servir, alors il fait que les choses deviennent agréables. Et j'aimerais témoigner parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi nous, si je regarde ma vie aujourd'hui. Hein, je ne vous dis pas l'âge que je vais avoir dans quelques semaines. Je regarde ma vie aujourd'hui et je regarde en arrière, quand j'avais 20 ans, quand Dieu m'a appelé. Combien je remercie le Seigneur qu'il a insisté auprès de moi et que j'ai pu céder enfin. Combien j'aurais regretté de ne pas avoir vécu pour lui et avoir répondu à son appel. Alors, on a chacun un appel différent. Si vous travaillez, gloire à Dieu. Moi, je crois que c'est le même appel. Mais servons le Seigneur là où il nous a placés. C'est ça, l'idée. Glorifions Dieu là où il nous a placés. Que ce soit un culte raisonnable, qu'on travaille dans tel milieu, qu'on serve le Seigneur dans l'église, ou à temps plein ou pas. Mais ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, à moins que vous ayez eu un appel particulier pour servir le Seigneur, ce qui compte, c'est de le servir avec un cœur qui est de bonne odeur à Christ. Parce que le cœur est là, en échange de ce que lui a fait pour nous. J'aimerais juste un instant qu'on baisse nos yeux, qu'on baisse nos têtes. Et on a pris la table du Seigneur ce matin. J'aimerais juste que, quelque part, vous puissiez considérer ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour vous. Regardez à la croix de vos yeux spirituels, je m'entends. Pensez que Jésus est mort à la croix, entre deux brigands, ses mains crucifiées, ses pieds crucifiés, cette couronne d'épines sur sa tête, son côté percé, ce corps meurtri, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. J'aimerais, si Jésus vous tend la main à l'instant, qu'il vous appelle, alors tendez-lui la vôtre. Moi, je ne vous demande pas de faire un calcul dans votre tête, mais de faire la logique de la foi, ce calcul qui dit, Seigneur, parce que tu t'es donné à moi, maintenant, je me donne à toi. Et dans votre cœur, là où vous êtes, lâchez prise. Lâchons prise ensemble. Et disons au Seigneur, oui, prends ma vie, je te la donne. Je veux te servir. On n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? On peut courir beaucoup à droite, à gauche. Mais vivons pour l'éternité, ce qui demeure. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas, peut-être ce matin, Dieu vous parle. Donnez-lui votre vie pour être sauvé. Dites au Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi. Je crois en toi, je veux croire en ton amour, j'ai des doutes, mais entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Dieu vous aime d'un amour infini, croyez en lui. La croix est là, elle est faite pour vous. Jésus l'a accomplie, cette œuvre merveilleuse à la croix pour vous. Prions s'il vous plaît. Notre Père, ce matin, tu nous invites encore à nous consacrer à toi. Je n'avais pas prévu cela, mais pendant que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, ce n'est pas pour moi que vous le faites. Moi, je vais fermer les yeux, donc je ne saurai pas qui va lever la main, mais je vous invite à lever la main. Moi-même, je veux me mettre devant le Seigneur, dire Seigneur, prends ma vie encore une fois. Levez la main et dites au Seigneur, voilà, oui, je m'engage encore à te servir. Levez la main pour vous consacrer, si vous le ressentez à l'instant, faites-le. C'est entre vous et le Seigneur, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'Église. C'est peut-être quelque chose que Dieu vous appelle à faire à l'instant. Alors, pendant que nos têtes sont baissées et nos yeux sont fermés, levez la main et dites, Seigneur, je te donne ma vie, tu t'es donné à moi, tu as tout fait pour moi. Levez la main, n'ayez pas de crainte, il va prendre votre main. Faites-le maintenant, devant le Seigneur. Donnez-vous. Sans réserve. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, votre réponse, elle est devant Dieu. Quelle est la réponse, ce matin, à l'instant, que vous donnez au Seigneur? C'est l'appel de Dieu, maintenant. Vous devez répondre. Seigneur Jésus, tu nous visites ce matin, tu nous appelles à nous consacrer, nous qui sommes si réticents parfois. Pourtant, on n'a qu'une seule vie à vivre par rapport à l'éternité. Donne-nous l'intelligence spirituelle, le discernement spirituel pour faire ce calcul logique de la foi à se donner pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.